Prierons. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Louez le nom du Seigneur, car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il leur a donné une règle qu'il ne violera pas. Louez le Seigneur depuis la terre. Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, louez le nom du Seigneur, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et les cieux. Il a relevé la force de son peuple, louange pour tous ses fidèles. Louez le Seigneur. Alors nous, attaquons ce matin les années 1 et 70 de notre ère. Primitivement d'ailleurs, c'était essentiellement là-dessus que devait porter ce cours. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait envisager tout ce qui avait précédé. Et envisager aussi, nous le verrons dans notre dernier cours, vendredi matin, ce qui devait suivre ces 70 années. Mais enfin, le cœur de mon exposé, c'est cela. Les années 1 à 70, les 70 années 1 à 70. Ces 70 années se divisent en deux. Il y a les 30 premières années qui sont les années de la vie terrestre de notre Seigneur. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler le temps apostolique, c'est-à-dire le temps qui court de l'année 30, disons de la Pentecôte, de l'année 30, jusqu'à l'année 70 qui vit la destruction de Jérusalem et du Temple. Donc, il faut bien voir que ces 70 années sont les années capitales de l'histoire. Ce sont les années capitales de l'histoire. Et c'est à tel point qu'au fond, le Nouveau Testament décrit, et le Nouveau Testament nous fait saisir ces 70 années comme gouvernant, au fond, toute l'histoire. Aussi bien d'ailleurs l'histoire qui a précédé que l'histoire qui a suivi. Évidemment, cela pose un certain nombre de questions historiques, parce que, vous le savez, le calcul fait dans le haut Moyen-Âge de la date de la naissance du Christ par rapport aux dates que l'on comptait à partir de l'établissement supposé, du moins, de l'Empire romain, tout le monde reconnaît qu'il s'est trompé dans ses calculs. Et alors on arrive à cette espèce de monstruosité que Jésus-Christ serait né 3 ans avant Jésus-Christ. Donc, lorsque je dis les 70 années, autant on est sûr que 70 est bien l'année de la destruction du Temple et de Jérusalem, autant pour voir exactement quand est né Jésus-Christ, le plus probable, selon tous les travaux qui ont été faits d'ailleurs depuis des décennies, c'est que Jésus-Christ est né 3 ans avant notre ère. 3 ans avant notre ère. Donc quand je dis les années 1 à 70, disons que 70 est une date solidement établie. Maintenant, la première année de notre ère, on ne peut pas la fixer exactement. Maintenant, on ne peut plus refaire l'histoire. Vous voyez à peu près ce que serait s'il fallait tout corriger, toutes les dates, à partir de, en corrigeant l'erreur faite par ce moine du 7e siècle, on n'en sortirait pas. Donc, ne prenez pas 70 dans un sens rigoureux. 70, c'est dans un sens global, disons à 2 ou 3 années près. nous sommes bien renseignés en quelque sorte sur ces 70 années. Et nous sommes renseignés particulièrement avec deux ouvrages. Le premier étant ce que l'on appelle couramment le Nouveau Testament et que j'appelle de préférence la tradition apostolique, c'est-à-dire les 27 livres de la tradition apostolique, les quatre évangiles, les actes des apôtres, les lettres apostoliques et l'Apocalypse. Alors on est d'abord bien renseigné par ce livre. Et puis on est bien renseigné aussi, je dirais à certains égards presque trop bien renseigné, par la guerre des Juifs qu'a rédigé Flavius Josèphe. Flavius Josèphe a été un contemporain des événements. C'était un drôle de zigoto parce que il a commencé par être général de l'armée juive au moment de la guerre des Juifs entre 66 et 70. Mais il a tourné kazakh, d'aucuns n'hésitent pas à dire qu'il a trahi. Et il est passé du côté des Romains. Il n'est pas passé du côté des Romains en portant les armes contre les Juifs. Il a assisté quand même en spectateur à la fin de la guerre des Juifs, et en particulier aux événements de l'année 70. Et puis, très tôt après, 4-5 ans après la fin de la guerre des Juifs, on appelle la guerre des Juifs donc cette guerre entre les Juifs révoltés et les Romains, allié d'ailleurs aux Édomites, mais ce qui est intéressant, c'est que il a écrit en détail la guerre des Juifs. D'ailleurs, il est l'auteur de trois ouvrages principaux, qui ont d'ailleurs été traduits en français à plusieurs reprises. Il y a un de ses livres, le plus gros de ses ouvrages, c'est « Les Antiquités juives », qui raconte, si l'on peut dire, toute l'histoire du peuple juif depuis la création, il fait remonter l'origine du peuple juif à la création, jusqu'à la guerre des Juifs. Et puis, après les Antiquités juives, il y a la guerre des Juifs, qui raconte donc essentiellement les événements de 66 à 70, mais qui remonte bien plus haut, qui remonte pratiquement aux révoltes qui ont précédé notre ère, et en particulier la révolte des Maccabées et tout cela. Alors nous avons ce récit dans la guerre des Juifs qui s'arrête, donc qui s'achève par la prise de Jérusalem et la destruction du Temple. Et puis il a écrit un livre qui est un livre plus petit que les autres et qui est au fond une apologie du judaïsme. Du judaïsme en tant que religion. Alors, donc, on est bien renseigné sur ces années 1 à 70, d'une part par le Nouveau Testament, d'autre part par la guerre des Juifs de Josèphe. D'ailleurs, je pense que ça peut vous être utile, sinon de posséder, tout au moins de pouvoir consulter la guerre des Juifs, et je dirais d'essayer de faire un rapprochement entre le Nouveau Testament et la guerre des Juifs. Curieusement pour nous, mais pas curieusement pour lui, au fond, Josèphe ne dit rien du christianisme. Il ne dit rien du Christ, il ne dit rien du développement du christianisme, et ça s'explique très bien parce que pour lui, il s'agissait là d'une secte tout à fait latérale, peu intéressante. Mais par contre, des chrétiens très vite se sont aperçus de cette lacune. Et dans certains anciens manuscrits de la guerre des Juifs ont été quelquefois insérés des phrases ou même des paragraphes se rapportant à Jésus à l'Église naissante. Il existe actuellement de bonnes éditions de la guerre des Juifs, et en particulier la meilleure édition, c'est pas l'édition traduite du latin, mais c'est la version grecque qu'a donnée Flavius Josèphe de la guerre des Juifs. Et alors il y a eu des traditions récentes. Moi-même je me suis servi d'une édition relativement récente pour la guerre des Juifs. Vous en avez d'ailleurs ici à la bibliothèque plusieurs versions. Donc, la guerre des Juifs de Flavius Jovès nous donne un certain nombre de renseignements, alors des renseignements même très intéressants sur les célébrations cultuelles au temple de Jérusalem, des détails sur la vie quotidienne des Juifs. Vous savez qu'il y a une collection actuelle sur, qui s'appelle La vie quotidienne. Alors, la vie quotidienne sous Louis-Philippe, la vie quotidienne sous Henri IV, la vie quotidienne, etc. Et au fond, nous avons dans la guerre des Juifs une sorte de, aussi, en rassemblant les fragments, on a une véritable vie quotidienne des Juifs à cette époque, et ça peut être intéressant. C'est pour ça que je crois quand même que c'est bon de lire, et peut-être même d'avoir la guerre des Juifs de Joseph. Évidemment, le Nouveau Testament ne se place pas du tout du même point de vue que Joseph, car, vous le savez, nos évangiles sont d'un genre littéraire exceptionnel. Exceptionnel, je veux dire, tout à fait particulier. On le sait, on l'a dit, et c'est vrai, il ne s'agit pas de biographie de Jésus, mais je dirais, il s'agit plutôt d'une suite d'images historiques sur la vie terrestre de Jésus. Une suite d'images historiques. Et, je dirais, c'est pourquoi il est intéressant de ne pas unifier, comme l'a essayé Tacien dans son Diatessarum, il ne s'agit pas d'essayer d'unifier les quatre évangiles. Il faut respecter les points de vue très divers de chacun des évangélistes. Comme vous le savez, parmi les évangélistes, il y en a deux qui sont des apôtres, c'est Matthieu et Jean, et il y en a deux qui sont des disciples d'apôtres, et ça vaut la peine aussi de les savoir, à savoir Marc, disciple de Pierre, et Luc, disciple de Paul. Et alors, il faut respecter, au fond, les points de vue différents. Un petit peu, c'est comme dans certaines prises de vue au cinéma, vous savez qu'au fond, il y a plusieurs caméramans qui... je dirais, saisissent une scène de points de vue différents. Et c'est quasiment impossible, avec quatre films pris de quatre points de vue différents, de faire une seule chose. Ce sont des perspectives différentes, pour des raisons différentes, et je crois que l'œuvre l'essai de Tacien était dangereux, et on a réessayé bien souvent de faire comme Tacien et de refaire un seul évangile avec les quatre évangiles. Alors, vous avez évidemment des choses qui sont très utiles, qui sont même indispensables. C'est bon d'avoir, je dirais, une synopse des évangiles synoptiques. Il existe même des synopses ou des quatre évangiles, ça c'est plus difficile, mais c'est bon d'avoir un exemplaire, et si possible, d'ailleurs, on peut avoir une synopse en grec, ce qui peut être très intéressant. Et en tout cas, lorsque vous préparez une étude biblique ou une prédication, c'est assez utile de consulter une synopse. Pourquoi ? Parce que il faut surtout pas, dans une prédication, affirmer quelque chose qui peut se trouver être contredit par un autre des évangiles. Vous voyez, il faut bien sûr suivre un évangile particulier, mais il faut veiller, quand on commente, quand on expose, quand on enseigne cet évangile particulier, il faut éviter de dire de soi-même des choses qui se trouveraient en contradiction avec ce qu'on trouve dans d'autres évangiles. Alors, ce n'est pas tellement vrai pour certains détails, savoir est-ce que c'est arrivé à l'entrée ou est-ce que c'est arrivé à la sortie d'un village. D'ailleurs, là aussi, il y a des discussions possibles, parce que très souvent, l'entrée et la sortie, c'est le même endroit. Mais ce qui est important, c'est plutôt des choses qui sont plus au fond. Il faut donc veiller à cela, n'est-ce pas ? C'est pour ça que c'est toujours bon, même si ensuite on reste sur le texte d'un seul évangile, d'éviter de dire des choses ou d'affirmer des choses qui ne sont pas d'ailleurs, bien entendu, affirmées dans cet évangile. Les choses affirmées dans cet évangile, on va dire. Non, mais plutôt qu'on risque de supposer, parce qu'on ne tient pas compte des parallèles dans les autres évangiles. Alors, comme vous le savez, les évangiles n'abordent pas immédiatement le mystère de l'incarnation. en particulier l'évangile de Matthieu et de Luc, au fond, nous donnent préalablement des introductions, qui sont plus ou moins longues, ce qui fait démarrer, en quelque sorte, les évangiles, c'est le baptême de Jésus-Christ. Les quatre évangiles, finalement, démarrent vraiment avec le baptême de Jésus-Christ. Le reste, et c'est quand même très intéressant, je crois qu'il faut faire très attention à ce qui nous est dit, en particulier dans Luc et dans Matthieu, sur la naissance du Christ, sur l'enfance de Jésus, dont on ne sait pas grand-chose, mais enfin on sait quelques petites choses, en particulier au moment où Jésus arrivait à l'âge de ce que les Juifs appellent Bar Mitzvah, c'est-à-dire l'âge que l'on considérait comme l'âge de la maturité, à 12 ans, alors on a l'épisode du Temple, mais je dirais, au fond, tout va démarrer avec le ministère de Jésus. On a pu s'étonner, bien sûr, pourquoi un tel silence, qui n'est coupé que par l'épisode de Jésus au Temple à 12 ans, pourquoi ce silence, au fond, sur pratiquement les 30 premières années de la vie de Jésus, puisque si Jésus est né en moins 3, comme je disais tout à l'heure, au fond, il a commencé son ministère que vers 27 ou 28, et tout va s'achever en l'année 30. Donc deux ans et demi, trois ans de ministère, vous le savez, les historiens et les exégètes les plus méticuleux hésitent. Disons que la durée du ministère de Jésus va entre 2 et 3 ans. 3 ans au maximum, 2 ans au minimum. Maintenant, à savoir combien il a duré exactement, c'est difficile à dire. Les évangélistes sont des gens qui sont très proches des événements. Vous savez que longtemps on a relégué les évangiles à la fin du 1er siècle, et même en ce qui concerne le 4e évangile de Jean au début du 2e siècle, et encore je ne parle pas des critiques les plus avancées, si on peut dire au sens où on dit qu'un fromage est avancé, du 19e siècle, mais si vous voulez, on arrivait finalement à situer les évangiles au début du 2e siècle, certains tirent à l'extrême. Mais enfin, en gros, quand même, on parlait de la fin du 1er siècle. Or, tout a été, vous le savez, bouleversé à certains points de vue par le livre de Robinson, Redating the New Testament, qui a été traduit en français, où on a simplement transcrit le titre, Redater le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant, c'est que la brave dame, qui est une exégète, qui est une savante, qui a traduit le livre, n'a pu s'empêcher, vous avez pu le noter, de mettre un post-scriptum très long d'ailleurs, de 2 ou 3 dizaines de pages, je ne me souviens plus, et elle essaye de démolir, elle qui a été la traductrice du livre, au fond tout ce que a démontré Robinson. Mais depuis, on a trouvé des choses intéressantes. Il y a un Wenham, qui n'est pas le Wenham dont je vous appelais hier au sujet du Lévitique, un Wenham a publié il y a un an, à peu près, donc c'est tout récent, un petit ouvrage qui s'appelle Redater, ça n'a pas été traduit en français, mais en anglais, Redater les synoptiques. Et c'est intéressant parce qu'au fond, cet ouvrage, à mes yeux, démontre d'une manière extrêmement intéressante que tous les évangiles ont été pratiquement écrits entre 40 et 60. Donc, si vous voulez, par rapport à Robinson, ça rapproche encore les évangiles du temps de la vie de Jésus. Et alors, c'est très embêtant, en particulier pour pas mal d'exégètes catholiques, ou même de certains exégètes évangéliques, qui, au fond, ont... pour les catholiques, c'était intéressant, il fallait montrer qu'au fond, la tradition apostolique, la tradition orale, avait été très longue. Et alors, ce qui intéressait les théologiens catholiques, les exégètes catholiques, c'était au fond de montrer que ce que nous connaissons de Jésus, nous le savons par la tradition de l'Église. Et alors, si vous voulez, il y avait un accord entre les exégètes, je mets entre guillemets, rationalistes, et les exégètes catholiques romains, pour lesquels la durée de la tradition orale était très importante. C'est une manière de dire, au fond, les évangiles, c'est une œuvre de l'Église, L'Église n'a conclu en quelque sorte la rédaction et fait le choix des 27 livres du Nouveau Testament que d'une manière qu'à la longue. Et alors donc Robinson a beaucoup dérangé les rationalistes, bien sûr, en particulier les écoles exégétiques allemandes, parce que c'est surtout l'Allemagne qui est là-dedans, la grosse artillerie de la science allemande. Alors c'était eux qui avaient les grands exégètes rationalistes, ont été des Allemands. Mais finalement ça a été suivi en partie par les Anglais, carrément suivi ou presque par les Français. Moi j'ai deux professeurs d'Ancien et Nouveau Testament, Adolphe Lowe pour l'Ancien Testament et Maurice Goguel pour le Nouveau Testament, allaient tout à fait dans le sens de la grosse artillerie scientifique allemande. Les Anglais ont toujours été beaucoup plus nuancés, même les Anglais, je dirais libéraux, ont été toujours plus nuancés, mais je dirais, on arrive maintenant de plus en plus à un nouveau consensus. Et je vous signale donc, il y a le livre de Robinson, il faut lire le livre de Wenham sur la date des évangiles sceptiques, et puis il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Avant que ne tombe Jérusalem », « Before Jerusalem falls », hein, « Avant que ne tombe Jérusalem », c'est un livre très intéressant d'un certain Kelly, K-E-2-L-Y. Et alors là, c'est des trois livres que je vous cite, c'est le plus récent, je ne me souviens plus sa date, c'est le livre de 88, quelque chose comme ça. Alors, je vous recommande ces trois ouvrages au point de vue des dates du Nouveau Testament. D'ailleurs, Kelly est en train de préparer un commentaire de l'Apocalypse, et vous savez que dans son commentaire sur l'Apocalypse, les jours de la vengeance, The Days of Vengeance, David Chilton, qui a fait un ouvrage à mon sens magistral, situe aussi, comme le fait Robinson, je pense qu'il faut le faire, la date de l'Apocalypse vers l'année 68. Donc, si vous voulez, on a un renouvellement de toute la vision qu'on peut avoir Nouveau Testament. Enfin, je pense que vous avez eu des professeurs du Nouveau Testament, vous avez eu plusieurs d'entre vous ont dû avoir Peter Jones, Peter Jones a certainement dû vous parler de Robinson et de son travail. Monsieur Martin, ça, je ne le connais pas assez pour savoir ce qu'il dit sur ce point. D'ailleurs, il faut toujours, vous savez, avec les professeurs, y compris moi-même, il faut aussi prendre quelquefois un peu de distance et il faut essayer de creuser soi-même les questions. Alors, le baptême de Jésus, je voudrais quand même en dire un mot, parce que c'est important, c'est très important, je voudrais vous montrer ou essayer de vous montrer pourquoi. Sur l'incarnation, je ne dirai plus, je ne dirai pas plus grand chose, dans mon livre, vous verrez, il y a une quinzaine de pages qui sont consacrées, mais je voudrais aller directement au baptême du Christ. Les introductions donc des évangiles de Matthieu et de Luc et le prologue de l'évangile de Jean sont des préfaces dont il faut tenir compte, mais finalement, c'est avec le baptême du Christ que son ministère commence. Et même Marc titre son évangile de la manière suivante, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et il démarre, Marc, avec le baptême de Jean, de Jésus. Enfin, le baptême que Jean a donné à Jésus, c'est difficile, parce que quand on dit le baptême de Jean, quelquefois on peut penser au baptême qu'a reçu Jean, alors il y a toujours là une petite difficulté avec le « deux français » qui est équivoque, il faut aller dans un sens ou aller dans l'autre. Alors, ce baptême a ceci d'important, c'est que il s'agit vraiment de l'onction que Jésus a reçue. Car, vous le savez, le mot grec « Christos » est la traduction du mot hébreu « machia ». Nous avons fait du « Christos » grec le Christ, nous avons fait du machia hébreu le Messie, et les latins, eux, disent loin. J'étais enfant, il y avait un cantique célébrant loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Alors ça m'avait toujours laissé rêveur, parce que je me demandais pourquoi on parlait de Jésus comme de quelqu'un qui était loin de l'Éternel. Ça me m'ouvrait des choses. Puis alors jusqu'au jour où j'ai compris que, alors quand j'étais un peu plus grand, vers 7-8 ans, que j'ai compris qu'au fond, il s'agit de celui qui a reçu l'onction. Donc au fond, Christ, Messie, loin, c'est le même mot, soit à partir du grec, soit à partir de l'hébreu, soit à partir du latin. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, Aaron et ses fils, devaient être oints, investis, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. On pourrait dire donc consacrés, ordonnés, afin de servir le Seigneur, afin d'exercer leur sacerdoce. Et cette onction était, nous y reviendrons tout à l'heure, une onction d'huile. C'est le livre du Lévitique qui donne les détails, parfum soigneusement préparé à partir d'huile d'olive et des meilleurs aromates. Nous avons ces détails aussi par le chapitre 30 du livre de l'Exode. Et alors, cette onction était répandue sur la tête par aspersion afin de consacrer. Lévitique, toujours le chapitre 8. Et la Torah précise, entre autres, à propos du jour de l'expiation et au sujet du souverain sacrificateur, que l'expiation ne pourra être faite que par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Pas possible d'être sacrificateur dans l'ancienne alliance sans avoir été oint. Et l'onction d'ailleurs était donnée non seulement au sacrificateur, mais aussi au roi, comme l'atteste les livres de Samuel et les livres des rois, et elle était, mais pas toujours, n'était pas toujours au prophète, comme l'atteste 1 Roi 19:16. On peut donc dire que l'onction était à la fois une onction sacerdotale, royale et prophétique. Et elle était le sceau sacramentel d'une effusion de l'Esprit-Saint. Alors là, nous avons deux séries de textes dans le premier livre de Samuel au chapitre 10 et au chapitre 16 et le début du livre d'Ésaïe, pas le début d'Ésaïe, le début du chapitre 61 d'Ésaïe. L'Ancien Testament, alors donc ça c'est le premier point, c'est que dans l'Ancien Testament il y avait une onction pour les sacrificateurs, les rois et pas toujours mais quelquefois pour les prophètes. Bon, mais l'Ancien Testament annonce à plusieurs reprises explicitement l'onction du Christ. Je vous donne quelques exemples. 1 Samuel 2:10-35. Je répète, 1 Samuel 2:10-35. Psaume 2:2-6. Psaume 2:2-6. Psaume 45:8. Psaume 45:8, Ésaïe 61:1, et enfin Daniel 9:24-26. Donc après Ésaïe 61:1, Daniel 9:24-26. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, en Actes 10:38, nous avons la confirmation de cela, c'est que Pierre déclare que le baptême de Jésus par de Jean, je veux dire, le baptême de Jésus par Jean signifie son onction d'Esprit Saint et de puissance. Autre point, je viens de vous citer, de vous indiquer le premier verset du chapitre 61 d'Ésaïe. Peu après son baptême, un jour de sabbat dans la synagogue de Nazareth, Jésus, après avoir lu précisément le début du chapitre 61 d'Ésaïe, déclare. Alors, je vous rappelle que c'est l'Esprit du Seigneur m'a oint, hein, c'est ce qui est dit dans Ésaïe 61. Jésus affirme à l'assemblée, dans le synagogue de Nazareth, aujourd'hui, maintenant, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, nous avons trois choses qui forment un faisceau. 1, l'onction des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. de l'annonce que Jésus serait revêtu de l'onction dans l'Ancien Testament, et trois, l'affirmation par Pierre, Acte 10, 38, c'est Pierre qui parle dans Acte 10, 38, disons que Jésus a bien reçu l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Alors tout ça converge pour nous dire qu'il faut parler du baptême onction de Jésus-Christ. Après qu'il ait affirmé au puits de Jacob à la femme samaritaine qu'il est bien le Christ, le Messie, loin qu'attendait Israël, Jésus recevra la confession de Pierre, tu es loin de Dieu, tu es le Christ, le Messie de Dieu. Luc 9, 20. Et Jésus affirmera aussi devant le souverain sacrificateur, au jour de sa passion et de sa crucifixion, qu'il est bien le Christ. Matthieu, alors vous avez Marc 14, 61-62, et aussi confirmation dans Acte 2, 36 et Romains 1, 4. Je répète, Marc 14, 61-62, et confirmation dans Acte 2, 36 et Romains 1, 4. Alors, ça nous amène à un examen attentif de l'onction de Jésus-Christ par Jean. Jean refusa d'abord de baptiser Jésus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus insiste et ordonne à Jean, laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions toute justice. Alors c'est sur ce verset précis de Matthieu 3, 15 que je voudrais m'arrêter une ou deux minutes. Il convient que nous accomplissions toute justice. Pour les Juifs fidèles à la Torah, ça nous dépasse, je veux dire, nous l'oublions. La justice, c'est de mettre en pratique ce que Dieu a ordonné. Donc au fond, quand Jésus dit à Jean, il convient que nous accomplissions toute justice, c'est comme s'il disait, il convient que nous accomplissions ce que le Seigneur a ordonné, ce que le Seigneur a commandé. Jésus d'ailleurs, né sous la Torah, sous la loi, Galates 4.4, a toujours voulu accomplir toute la justice prescrite par la Torah. Alors, lors de son baptême onction, Jésus a voulu que soit accompli tout ce qu'ordonnait la Torah. Or, qu'exigeait la Torah des sacrificateurs pour qu'ils puissent recevoir l'onction? 1. Il fallait qu'ils aient atteint l'âge de 30 ans. Nombre 4, 3 et 47. Il fallait avoir atteint l'âge de 30 ans. Deuxièmement, il fallait avoir reçu vocation pour cela. Exode 28, 1. C'est confirmé par Hébreux 5.4. Je répète, Exode 28.1, confirmé par Hébreux 5.4. Et trois, il fallait que ce soit de la main d'un sacrificateur qu'il reçoive l'aspersion d'eau. Parce qu'il y avait une onction d'huile accompagnée d'une aspersion d'eau. Alors là, pour cela, vous avez plusieurs textes, toujours dans le chapitre 8 du Lévitique, qui est tellement bien commenté par Wenham, et vous pouvez vous référer aussi à Exode 29.4, Exode 30, et pour les Lévites, à Nombre 8. Je répète, Exode 29.4, Exode 30, 17-21, et pour les Lévites, Nombre 8-6-7. Or, précisément, l'évangile de Luc nous précise que Jésus avait atteint 30 ans au commencement de son ministère lors de son baptême. Luc 3, 23. Deuxièmement, la lettre aux Hébreux nous dit qu'il avait été dûment appelé par Dieu. Hébreux 5, 4, 10. Et troisièmement, toujours en rapport à ce que je viens de dire précédemment, il reçut l'aspersion d'eau de Jean, qui était de droit sacrificateur, puisque fils du sacrificateur Zacharie. Luc 1, 5 et 13. Donc, les conditions requises pour qu'un sacrificateur puisse être oint étaient remplies par Jésus-Christ. Trois conditions, je vous rappelle, âge de 30 ans, avoir reçu vocation et recevoir l'aspersion d'eau de la main d'un sacrificateur. Alors c'est intéressant de voir que tous les trois points sont précisés dans le Nouveau Testament. Alors là où les choses sont confirmées. C'est par exemple lors de l'épisode que nous rapportent Matthieu 21 et Marc 11, à savoir que Jésus a chassé les marchands du temple en leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et alors les autorités juives sont intervenues et demandent à Jésus, par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour le faire? Et Jésus leur répond, je vous poserai moi aussi une seule question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, sous-entendu que j'ai reçu, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ainsi Jésus établit un lien entre son onction par Jean et l'autorité qu'il a dans le temple pour en chasser les voleurs et y enseigner. Il démontre par là qu'il agit comme il en a reçu le droit et la mission en sacrificateur. Donc les choses se tiennent les unes les autres. Alors nous arrivons maintenant à un point évidemment controversé, mais auquel il faut répondre, à l'objection trop rapide, mais Jésus n'était pas sacrificateur puisqu'il n'était pas de la famille d'Aaron. Et Jésus n'était même pas de la tribu de Lévi, dont les membres étaient rattachés à la descendance d'Aaron pour le service du temple. La réponse nous est apportée par le Nouveau Testament lui-même. Jésus n'a pas été sacrificateur selon l'ordre aaronique d'Israël, parce que sa sacrificature de sacrificateur et de sacrifié n'était pas selon l'ancienne alliance pour les seuls juifs, mais selon la nouvelle alliance pour toutes les nations du monde. Et Jésus a été fait, alors c'est là le point que va développer la lettre aux Hébreux, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le psaume 110 l'annonçait, oracle du Seigneur Yahvé, à mon Seigneur Adoni. Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de ta puissance, le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà ce qu'annonçait le psaume 110. Et la lettre aux Hébreux, citant conjointement ce psaume 110 et le psaume 2, nous dit de Jésus qu'il a été, je cite Hébreux 5, 10, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Hébreux 5,
Hébreux 5, verset 10, c'est répété dans Hébreux 6, verset 20, et Hébreux 7, verset 17. Tout le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux célèbre la supériorité qualitative mystérieuse de Melchisédek, le nom signifie roi de justice, sur Abraham lui-même, et la supériorité de cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek sur la sacrificature aaronique en Israël. En effet, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, alors que les souverains sacrificateurs de la sacrificature israélite, de la sacrificature de l'ancienne alliance, de l'ancienne disposition de l'alliance, hommes sujets à la faiblesse, devaient continuellement offrir des sacrifices, le Christ, fils unique, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, s'est offert lui-même une fois pour toutes, ôtant le péché du monde par son parfait sacrifice. D'ailleurs, l'expression « autant le péché du monde » est tirée de la bouche de Jean-Baptiste, puisque c'est Jean-Baptiste qui dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le récit de la rencontre d'Abraham et de Melchisédek en Genèse 14 nous révèle à la fois radicalement et prophétiquement qu'il y a, voilé dans l'Ancien Testament, dévoilé dans le Nouveau, une sacrificature plus profonde et plus haute, plus ample et plus universelle que la sacrificature aaronique et lévitique. C'est cette sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, qui est la sacrificature Jésus-Christ. Le Christ est venu après Abraham, après Moïse, après Aaron, après les prophètes de l'Ancienne Alliance, y compris Jean-Baptiste, et il était cependant, nous en avons parlé hier, bien avant eux, lui, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand il a donné la dîme de tout à Melchisédek, Abraham confirmait la sacrificature du Dieu très haut Et il faudrait reprendre, mais nous n'avons pas le temps de le reprendre en détail, tout ce passage de, du livre de la Genèse au sujet de la rencontre entre Abraham et Melchisédek, et voir le commentaire qu'en donne l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, je conclue ce point. Le Christ Jésus a à la fois humblement obéi à la Torah en recevant, comme un sacrificateur ordinaire, son baptême onction de la main d'un sacrificateur humain alors qu'il avait 30 ans. Et il a aussi accompli ce que promettait la Bible juive qui annonçait, préparait et typifiait le Messie, le Christ à venir, le sacrificateur extraordinaire, unique, non seulement parce que cette Torah nous décrit tout l'ensemble de la sacrificature ancienne, mais qu'elle nous dessine à l'avance la figure singulière de celui qui devait venir en l'image de Melchisédek. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du baptême Jésus-Christ. Il y aurait bien d'autres choses à dire, bien sûr, sur ce baptême, mais puisqu'il s'agit du traité d'alliance, je voulais, en m'arrêtant sur le baptême de Jésus-Christ un moment, vous montrer au fond la continuité dans le traité d'alliance entre tout ce qui est dit des sacrificateurs et des sacrificatures dans la Torah et ce qui nous est dit de Jésus comme notre souverain sacrificateur dans la tradition apostolique. Alors, il faut ajouter, bien sûr, à cela, mais nous ne nous y arrêterons pas aujourd'hui, il faudrait voir, au fond, le sens de cette onction du Christ, de ce baptême du Christ, par rapport à sa mission de prophète. Et aussi, il faudrait voir tout ce que cela peut engager par rapport à l'onction royale. Car Jésus est à la fois, comme le précise le catéchisme de Heidelberg de 1563, Jésus est à la fois notre souverain sacrificateur, le prophète par excellence. Il est le prophète par excellence parce qu'il n'est pas seulement celui qui annonce, qui dit, qui proclame la parole, mais il est lui-même la parole incarnée. Et puis enfin, comme fils de David, il est de la lignée royale et il vient, il est aussi oint par Jean-Baptiste en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, Jésus s'est trouvé, dès qu'il a commencé son ministère, après son baptême, devant l'accueil de ceux qu'on appelle les pauvres en Israël, qui sont, si je puis dire, le reste fidèle d'Israël. Et là, alors il faut reprendre toutes les figures du prologue de Luc. Ce sont les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. C'est bien entendu Joseph et Marie, Joseph le père légal de Jésus et Marie sa mère. Ce sont le vieillard Siméon et Anne la prophétesse, et puis ce sont ses disciples en particulier les femmes qui ont donné leur cœur à Jésus, qui l'ont reconnu comme le Christ, le Messie. Et alors donc, il y a eu cet accueil par les pauvres ou par le reste en Israël. Et puis alors, il y a eu les adversaires. Et en particulier, les adversaires des Pérouchim. Les Pérouchim, ce sont les pharisiens. Alors là aussi, on a essayé, surtout du côté juif, pas seulement du côté juif. Mademoiselle Dillmann m'a refilé un certain nombre de livres fort intéressants sur les pharisiens, et même j'ai pu lire comme ça un livre écrit par un professeur d'université, un professeur juif d'université, puis par plusieurs exégètes et historiens chrétiens. Alors on essaie de faire une réhabilitation des pharisiens, mais les pharisiens c'était des gens très bien, Et alors évidemment il y a une contradiction entre ce qu'affirment ces exégètes et historiens juifs ou entre guillemets chrétiens, et puis les textes du Nouveau Testament. Et au fond, on arrive même dans certains de ces ouvrages, ça m'a frappé, à dire que le Nouveau Testament nous donne une image fausse, caricaturale et fausse des pharisiens. Caricaturale, dans un sens, ça peut s'accepter. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une caricature ? Une caricature n'est une bonne caricature que si elle a une ressemblance avec la vérité. Une mauvaise caricature, c'est qu'on ne voit aucun lien entre la caricature et l'autre. Mais la caricature, on peut accepter, en effet, qu'il y a quelque chose de caricatural, en ce sens que une caricature vous marque, vous grossit les traits, mais ne les fausse pas. Ils sont soulignés, les traits, ils sont grossis, mais ce sont des traits réels. D'ailleurs, si les traits n'avaient pas cette correspondance à la réalité, ça ne serait plus une caricature, ou plus exactement, ce serait une caricature ratée. Pour qu'une caricature soit une bonne caricature, il faut qu'elle soit quand même fidèle à la réalité, même si certains traits sont forcés, soulignés. D'ailleurs, nous faisons ça forcément, pas seulement dans les caricatures en dessin, en image, mais dans les caricatures quand nous parlons de quelqu'un. Quand nous parlons de quelqu'un, d'ailleurs, nous en faisons toujours une caricature. Alors, il y a des caricatures qui sont fausses, nous faisons de fausses descriptions, mais quand même, c'est une caricature. Pourquoi ? Parce que nous allons souligner quelques traits et nous allons omettre beaucoup de choses. Nous faisons un certain choix, mais, si vous voulez, une bonne... sont soulignés. Et alors, par exemple, on nous dit, ces historiens exégètes dont je vous parle, juifs ou chrétiens, mais c'était des hommes extrêmement bien, les pharisiens. Ils essayaient même d'être des modèles. Et on est tout à fait d'accord, ils étaient même tellement bien et tellement modèles qu'ils s'en enorgueillissaient et qu'ils avaient une propre justice incroyable. Alors on est d'accord que c'était des gens à part, à certains égards très bien, mais justement, c'était ça leur vice. C'était de se savoir ou de se croire très bien, et d'avoir surtout la propre justice. Alors c'est toute la dérive entre ce que nous révèle l'Ancien Testament et la religion judaïque. Je ne dis pas la religion des fidèles dans l'Ancien Testament, ou dans le reste d'Israël. Mais je dirais, il y a une grande différence, parce que l'Ancien Testament, je le répète, c'est une parole de grâce. C'est une parole d'évangile, en même temps que c'est une parole de loi. Alors, on souligne toujours la loi quand on parle de l'Ancien Testament, comme s'il n'y avait pas l'évangile. Mais je dirais à l'inverse, on souligne tellement l'évangile dans le Nouveau Testament qu'on oublie tout ce que le Nouveau Testament nous dit de loi. Vous comprenez, c'est faux. Toute la Bible est parole d'évangile et parole de loi. On pourrait dire que la parole de Dieu, c'est une parole évangile-loi, ou une parole loi-évangile. La loi et l'évangile étant l'avers et le revers de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toujours évangile et loi, loi et évangile. Si vous supprimez la loi, vous n'avez plus l'évangile, au sens où en parle la Bible, et si vous ne vous supprimez l'évangile, vous n'avez plus non plus la loi, au sens où en parle la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est ensemble, inséparablement, évangile et loi. Et alors, avec le judaïsme, on arrive à ceci, c'est que tout ce qui est grâce, évangile, miséricorde est oublié. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit aux pharisiens. « Oh là là, vous êtes très fort !» En effet, il faisait des tas de choses que très souvent les chrétiens, contrairement à ce que demande la parole de Dieu, ne font pas. Je pense à la dîme, je pense à quelque chose. C'est des gens qui observaient la dîme, les pharisiens, tout ça. Qu'est-ce que Jésus leur dit ? Vous observez certains commandements, mais vous oubliez le plus important dans les commandements, la miséricorde, la justice. Autrement dit, il y a eu l'hérésie, on peut parler d'hérésie de choix, l'hérésie des pharisiens, c'est de ne prendre que l'aspect loi et de le prendre en plus de telle manière que, nous allons le voir dans ma conclusion, la loi elle-même est complètement déformée. Alors là, je voudrais m'arrêter un instant sur... m'arrêter un instant sur les six antithèses de Matthieu 5, 21, 48. Je vous ai dit qu'il fallait aborder ces six antithèses. Ce sont les antithèses entre ce qu'enseignent des rabbis, et la plupart des rabbis, les docteurs de la loi, étaient des pharisiens. Ça ne veut pas dire que la plupart des pharisiens étaient des docteurs de la loi. Mais je dirais, la plupart des docteurs de la loi étaient des pharisiens. Je pense par exemple à un homme comme Nicodème, je pense à des gens qui étaient quelquefois placés même dans le Sanhédrin, c'est-à-dire dans le tribunal suprême des Juifs. Alors il y avait antithèse entre ce qu'enseignent les rabbis et ce que dit vraiment la Torah. Jésus considère toujours l'ensemble de l'écriture, des racines jusqu'aux fruits, tandis que les rabbis n'en exposent que des parties, lesquelles, hors du tout, ont perdu la sève. Alors, vous savez que, je vous l'ai dit hier, toujours, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, et puis, en opposition, mais moi, je vous dis. Alors, reprenons les six antithèses de Matthieu 5, 21-48. Pour aller vite, je me contenterai de lire ce que j'ai écrit, c'est à vous ensuite d'essayer de creuser les affaires. 1. Tu ne commettras pas de meurtre, selon les rabbins, n'aurait visé que l'acte extérieur, sans condamner la mauvaise colère qui en est la source. Jésus montre même que l'aspect négatif de ce commandement, tu ne commettras pas de meurtre, comporte un aspect positif, à savoir qu'il nous faut aimer le prochain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus dit cela, il s'appuie, on l'oublie souvent, sur deux versets, deux textes de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament. Par exemple, au sujet de la colère, il faut relire Zacharie 7, verset 10, et Zacharie 8, verset 17. Je répète, Zacharie 7, verset 10, et 8, verset 17. Et en ce qui concerne l'aspect positif qui est sous-entendu dans le commandement « Tu ne commettras pas de meurtre », il faut voir Lévitique, chapitre 19, verset 16 à 18. Voilà, donc je répète, Lévitique 19, verset 16 à 18. Donc, quand Jésus critique le faux enseignement des pharisiens au sujet de la sixième parole du décalogue, tu ne commettras pas de meurtre, Jésus se réfère à ce que disait déjà l'Ancien Testament. 2. De même, tu ne commettras pas d'adultère, selon les rabbis, ça ne visait aucunement la convoitise. Ça ne visait aucunement, je dirais, l'approche intérieure de l'adultère, le mouvement intérieur vers l'adultère. Alors là, c'est parallèle, si vous voulez, à l'enseignement sur le kilométrage de Pompeo. Troisième antithèse, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, ça c'est tiré de Deutéronome 24.1, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, comment les rabbins interprétaient cette parole? Eh bien, au fond, quand tu veux répudier ta femme, c'est très simple, tu n'as qu'à lui adresser une lettre de divorce. Or, la répudiation d'une femme par son mari, selon le bon plaisir de celui-ci, est tout à fait condamnée, par exemple, par Malachi. Hein, Malachi, il faut prononcer Malachi et non pas Malachi. Parce qu'il faut suivre là ce que dit l'hébreu. Alors vous avez Malachi 2, verset 14-16. Et pour vous citer encore, le fameux rabbin Hillel, qui était aussi un contemporain de Jésus, autorisait la répudiation d'une femme, le divorce d'avec elle. Je vous donne les exemples qui sont cités par Hillel. Si elle parlait trop fort, si elle faisait mal la cuisine, si elle ratait un plat, si elle n'était plus aussi belle, y avait plus de limite. Au fond, on pouvait faire, selon les rabbins, une lettre de divorce sur n'importe quoi. De plus, qu'est-ce qu'elle allait vérifier ? Un, que la femme avait mal parlé ou trop parlé, qu'elle avait raté un plat, et qui allait lui dire qu'elle n'était plus aussi belle ou autre. Donc au fond, ce passage du Deutéronome était interprété en dehors de tout le contexte de la Torah, et au fond était un bon prétexte pour les pharisiens pour répudier leur femme selon leur seul bon plaisir. 4. Le « tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments » aurait signifié, selon les rabbins, là on n'a pas une citation exacte de la Torah, quand il est dit « tu ne commettras pas de meurtre », tu ne commettras pas d'adultère, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là, on a affaire à des textes de l'Ancien Testament. Tandis qu'avec la quatrième antithèse, il n'est nulle part écrit dans la Torah, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais quand même, il y a une allusion à ce que dit Lévitique 19, 12. Bon, alors acceptons donc, sinon la parole exactement reproduite, du moins une direction de la Torah. Alors pour les rabbins, ça signifiait qu'on pouvait jurer et faire des serments dans la vie courante, avec toutes les restrictions mentales qu'on voulait, selon qu'on les fait par ceci ou par cela. Par exemple, on arrive à dire, si on le fait sur la tête de quelqu'un, ou si on le fait par le temple, ou si on le fait, on a le droit. Même on peut parjurer parce que c'est un truc qui n'a pas d'importance, il n'y a pas eu vraiment serment. Hein? Donc on va le restreindre au seul à certains serments seulement. Alors qu'est-ce que Jésus rappelle dans son commentaire? C'est qu'il rappelle que dans la vie courante, en dehors, il y a des serments que nous devons prêter selon l'Écriture. Par exemple, si vous êtes témoin en justice, vous faites un serment. D'ailleurs, c'est resté dans le droit occidental. Personne ne peut témoigner en justice, il n'a fait le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Bien sûr, dans ce qu'il sait. On avait un serment. Le mariage, dans l'Écriture, est un serment. Un serment. Quand quelqu'un recevait l'onction de sacrificateur, ou de roi, ou de prophète, il s'engageait. Donc, il y a des serments dans la vie qui sont tout à fait autorisés par l'Écriture. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, sans parler de Dieu lui-même, fait des serments dans l'Écriture. « Je le jure, dit le Seigneur. » Donc, le serment, dans des cas exceptionnels comme ça, parce que ça n'arrive pas souvent qu'on soit témoin en justice. C'est pas souvent, en principe, du moins à notre époque, qu'on se marie. Non, parce que je dis ça, parce qu'à l'heure actuelle, si vous lisez la presse ou si vous écoutez les médias, quand quelqu'un arrive dans son 7e ou 8e mariage, c'est tout juste si on ne trouve pas que c'est admirable. Oh, comme c'est bien, vous savez, l'acteur un tel ou l'actrice un tel, c'est son 7e mariage. Bravo, quelle réussite. Bon. Alors, vous avez donc, il y a des cas, comme l'ordination, comme le mariage, comme le témoignage en justice, où il y a serment, et où la Bible vraiment impose en quelque sorte le serment. Mais il est question là de la vie courante. De la vie courante. Dans la vie courante, ne jurez pas du tout. Ne faites jamais de serment. Dans la vie ordinaire, dit Jésus, c'est ça le sens de la Torah, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Enfin, 5e, antithèse entre l'enseignement des rabbis et celui de Jésus, œil pour œil et dent pour dent. Il faut faire attention. On raconte à sujet de cette parole n'importe quoi, n'importe quoi. C'est une parole admirable, parce que c'est la parole fondatrice du droit civil et pénal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut toujours en droit, droit avec un D majuscule, il faut toujours en droit proportionner la peine à la faute ou au crime. Il faut qu'il y ait... C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire littéralement et bêtement œil pour œil, dent pour dent. Ça n'a jamais voulu dire ça. Ça veut dire La peine doit toujours être proportionnée à la faute. Il faut qu'il y ait une juste proportion entre la faute commise et la peine appliquée. Voilà. Et dans la vie ordinaire, parce que c'était dans la vie ordinaire, exactement comme pour le « tu ne te parjureras pas », ce qui est interdit, c'est le serment dans la vie ordinaire. Et là, ce qui est interdit dans la vie ordinaire, c'est la vengeance personnelle. Or, les rabbins tiraient de œil pour œil, dent pour dent, une autorisation à la vengeance privée, à la vengeance personnelle. Or, la Bible l'interdit dans la vie, dans les rapports personnels. Au contraire, l'Écriture exhorte à la miséricorde. Je vous cite simplement trois textes, mais il y en a beaucoup d'autres. Proverbe 19, 22, Ésaïe 1, 17, je répète, Proverbe 19, 22, Ésaïe 1, 17 et Zacharie 7, 9. Alors là aussi, on voit le détournement de l'enseignement biblique par les pharisiens. Les pharisiens ne sont pas du tout des gens qui obéissent à la Torah. Ce sont des gens qui désobéissent à la Torah. Ce ne sont pas des maîtres qui exposent la Torah. Ce sont des maîtres qui s'écartent et quelquefois même s'opposent à la Torah. Et alors là, pour la dernière antithèse, alors là c'est encore plus fort, tu haïras ton ennemi. Ah, il faut aller le chercher. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas d'exhortation à haïr l'ennemi. Sauf évidemment de manière figurative, lorsqu'il s'agit du combat dans la guerre, et où lorsqu'il s'agit, et encore là aussi, il faut voir que c'est pas ce qui n'est pas demandé, c'est la haine. Ça veut dire, quand tu te bats dans la guerre, il faut te battre courageusement. Et ça ne veut pas dire, haïr l'ennemi, ça veut dire, il ne faut pas oublier, par exemple, en hébreu, alors c'est une, on vous l'a dû vous la faire déjà, là, votre professeur de langue biblique a dû vous le dire, en hébreu, le comparatif n'existe pratiquement pas. Par exemple, si en hébreu, je veux dire, je préfère le café au lait au chocolat, je suis carrément obligé de dire, j'aime le café au lait et je hais le chocolat. Pourquoi ? Parce que la forme, je préfère, la forme n'existe pas en hébreu. Alors, là aussi, il faut faire attention. La haine est souvent quelque chose de comparatif.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a trait au psaume d'imprécation ?
Alors, là, c'est une autre chose, c'est au psaume d'imprécation que je faisais allusion, dans le combat spirituel aussi. Nous ne devons d'aucune façon aimer, ça veut dire suivre les hérétiques au point de vue spirituel ou les adversaires de Dieu. Hein? Alors là, c'est tout. Mais il faut faire attention là au mot. Du fait qu'il était dit « tu aimeras ton prochain », ce qui est un ordre qui se trouve, vous le savez, dans le Lévitique au chapitre 19 et au verset 18, « tu aimeras ton prochain ». Alors, les rabbins déduisaient « tu haïras ton ennemi ». Et c'est que la Bible ordonne, je pense à Proverbe 25, il y a une parole de Proverbe 25 qui va tout à fait dans le sens, « si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ». S'il a soif, donne-lui à boire. Là aussi, ce n'est pas une parole du Nouveau Testament. Bien sûr, c'est répété dans le Nouveau Testament, mais ça se trouve dans l'Ancien. Si vous voulez qu'il y a quelque chose de juste, quelquefois les juifs disent aux chrétiens, enfin les rabbins disent aux chrétiens, au fond, tout ce que dit Jésus se trouve déjà dans notre Torah. Mais on n'a jamais discuté ça, le point n'est pas là. Jésus n'est pas venu enseigner une autre morale. Il est venu montrer la vérité de l'ancienne morale. Mais ce qui importe, ce n'est pas l'enseignement de la morale. C'est le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour ôter notre péché. Et ça, alors on ne trouve personne dans l'Ancien Testament pour le faire. Et c'est là où est notre discussion avec les Juifs. Nous n'avons jamais dit que la morale de l'Ancien Testament était une autre morale que la morale du Nouveau. La morale du Nouveau approfondit, précise la morale de la loi, de la Torah, mais c'est la même morale. Il n'y a qu'une morale dans la Bible, ou bien alors il faut devenir, je vous en parlerai dans un prochain cours, du marcionisme. Faire une opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la morale juive, et là aussi il faut faire attention. Là, vous seul, vous êtes dans une faculté de théologie. Alors, la tentation d'une faculté de théologie, vous savez, c'est pas, ça peut se discuter. Pourquoi est-ce qu'il y a un professeur d'Ancien Testament, un professeur du Nouveau Testament? Est-ce que aussi, alors, il y aurait une théologie d'Ancien Testament et une théologie du Nouveau? Est-ce qu'il y a une morale de l'Ancien puis une morale du Nouveau? Alors, vous savez que les exégètes non réformés, eux, ils y vont carrément. Non seulement il y a une morale d'Ancien Testament, une morale du Nouveau, une morale de l'Ancien, mais même à l'intérieur de l'Ancien Testament, il y a des morales différentes. À l'intérieur du Nouveau, il y a des morales différentes et même des théologies différentes. Alors on parlera de la théologie lucaine, de la théologie paulinienne, de la théologie pétrinienne, de la comme si...
Martienne.
Oui, martienne, je suppose. C'est délicat à énoncer. Voilà. Alors je m'arrête là. Enfin, pour qu'il n'y ait personne qui soit gêné. S'il y a quelqu'un qui est un peu travaillé en dedans et qui désire boire une tasse de café ou autre, nous lui laissons la liberté d'aller le faire. Donc, si vous avez envie de boire une tasse de café, allez-y. Vous avez ma pleine approbation. Sans ça, nous engageons l'entretien.
Alors, moi, je voulais vous poser une question parce que, bon, à propos de ce que vous avez dit sur les pharisiens, j'ai lu récemment, je ne sais plus où, qu'il y avait une nouvelle thèse... comme ça, qui était dans l'air, comme quoi Jésus aurait été pharisien. Mais pharisien, je veux dire, peut-être oui, pharisien fidèle et qui aurait... Mais bon, j'ai lu ça, je ne sais plus où, récemment, quelque chose de vulgarisation. Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez entendu parler de ça. Et
si, j'ai si entendu ça parler de ça, solide, mais je dirais, on a, jusqu'à présent, rien d'autre qu'une hypothèse. Mais je ne crois pas que ce soit une hypothèse, je la crois improbable. Mais ça ne veut pas dire que c'est une hypothèse qu'il faut complètement rayer, en ce sens que je crois que Jésus est beaucoup plus près des pauvres en Israël et du reste fidèle d'Israël que des pharisiens. Mais Paul était bien pharisien. Et parmi les disciples de Jésus, il y a eu plusieurs pharisiens.
Mais par rapport à la sacrificature, est-ce que ça poserait un problème? Est-ce que les deux sont compatibles, par exemple?
À savoir être pharisien et sacrificateur?
Oui.
Ah, vous aviez des sacrificateurs qui étaient...
De la tribu de... Oui. Vous avez des pharisiens de la tribu de...
Oui, les pharisiens, c'était à l'intérieur d'Israël, si j'ai bien compris les livres que m'a fait lire Mademoiselle Dillmann, je dirais, c'est que... c'était une tendance à travers toutes les couches sociales. En général, d'ailleurs, les prêtres, les milieux sacerdotaux, étaient plutôt sadducéens. Ils se rattachaient à un hypothétique Sadoc, ce n'est pas obligé de passer, parce que là aussi, je ne pense pas que ça faille forcément allusion au nom du bonhomme originel de la chose, mais si vous voulez, je crois que les Sadducéens étaient beaucoup plus, alors ça on le voit tout à fait dans la guerre des Juifs de Joseph. Dans la guerre des Juifs de Joseph, on voit apparaître l'importance considérable des Sadducéens. Les Sadducéens tenaient plus ou moins la caste sacerdotale, mais c'était pas obligé. On pouvait très bien être sacrificateur et ne pas être sadducéen. On pouvait très bien être pharisien en étant sacrificateur. Si vous voulez, c'était plutôt une tendance. Les purs. Oui. Les purs, n'est-ce pas, les gens à part, parce que c'était ça le sens du mot perushim, hein, on était à part.
D'ailleurs, c'est Lose, je pense, qui dit ça, que donc les sadducéens, alors là, ont complètement disparu. Avec
70, oui, c'est l'effondrement des pourquoi? Parce que justement, ils ont été tellement, proches de l'accomplissement de l'abomination de la désolation, de tout ça, que finalement, ils ont été disqualifiés. Et par contre, alors, ce sont les pharisiens qui vont triompher. Les sadducéens ont encore beaucoup de pouvoir, pas un pouvoir plus grand que les pharisiens, mais ils ont quand même encore pas mal de pouvoir dans les années 1 à 30, je veux dire 1 à 70, du vivant de Jésus, et ensuite dans le temps apostolique. Mais déjà, dans les années 30 à 70, ça va commencer à... Et alors, avec la destruction du temple, c'est terminé. Et alors, par contre, les pharisiens, finalement, tous les grands mouvements juifs dans l'histoire, en particulier le mouvement des Hassidim, encore l'histoire, au fond, ce sont des mouvements assez proches des pharisiens.
Oui, c'est une idée et une question. L'idée, c'est que, je pense, si Flavius, le chef, il n'a pas parlé du christianisme parce qu'il était pharisien. Et alors, les pharisiens, ils sont traités assez durement et justement dans les évangiles. Je crois que peut-être une réaction psychologique. Parce qu'il oublie, il ne fait pas mention du christianisme et non plus du Christ. Mais il était pharisien quand même.
Oui, oui. Mais vous avez raison.
Alors,
je crois que...
qu'il a touché parce qu'il était touché, je ne sais pas. Et la question c'est...
Oui, vous avez raison, là, probablement.
Et la question c'est... Paul parle des chrétiens de Rome comme des saints séparés. Alors, je lis qu'on peut trouver... Je ne le crois pas, mais on peut trouver, dit quelqu'un, des traits, des liaisons entre les notions qu'utilise Paul des saints pour les chrétiens et la traduction des pharisiens séparés, les purs séparés. Alors, il était pharisien. Alors, peut-être qu'il y a une influence. C'est ça que je vous demande. Qu'est-ce que vous croyez à ces propos? Parce que c'est écrit, il y a des auteurs qui disent que l'idée des saints, ça signifie séparer, pour le Seigneur de Dieu, alors ça signifie séparer, c'est à peu près comme les pharisiens, et Paul, il était pharisien. Alors, est-ce qu'il y a une relation, c'est quelque chose qui profite, parce qu'il était là, le terme, séparer, le terme, ou c'est parce que son esprit les trahit, je ne sais pas. Ça, c'est une question.
Vous alliez ajouter quelque chose?
Je me demandais si c'est pas parce que je pense que c'est un titre saint, c'est un titre qui est appliqué à Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Non, et c'est donc, au Romain.
Oui, non, mais après, je pense par ricochet, ça l'est pour les chrétiens, parce que ça l'est pour le Christ. Enfin, je sais pas.
Voilà, moi, je vous dirais que je vais être très prudent dans ma réponse, vous allez trouver même trop prudent. Mais vraiment, c'est pas une question que j'ai abordée ou étudiée. Alors, je me garderai bien. Je crois que votre première chose au sujet de Joseph, je crois que c'est très juste. Je crois en effet que c'est sans doute à cause du fait qu'il était un juif pharisien, ça peut jouer. C'est possible. Il faut l'étudier. Mais alors, par contre, le second point... Enfin, il faut bien voir que pour Paul, qui a été un modèle de pharisien, il se vante même d'avoir été, enfin il se vante, il dit, voilà, il y en a qui se vantent, moi je pourrais bien me vanter, pharisien, fils de pharisien, ça pour le pharisaïme, j'en connais un bout. Hein. Donc Paul, mais je ne pense pas que lorsqu'il parle de la foi chrétienne et des chrétiens, il faille, même si s'il peut y avoir un certain rapprochement possible dans le vocabulaire, hein, je pense qu'il faut être très prudent. En tout cas, il faut étudier. Mais voilà, ça peut faire un bon sujet de mémoire, de maîtrise, ou même de thèse plus tard de doctorat. Je crois que ça pourrait être intéressant de voir cette question que vous soulevez au sujet de l'idée de séparation. Mais moi, j'avoue, je me déclare tout à fait incompétent. J'ai pas étudié ce problème.
Vous croyez que parfois c'est tout à fait le même qu'avec les catholiques, par exemple. Le catholique signifie universel. Alors, mais lorsque nous disons catholique, nous appliquons le terme seulement ou presque toujours à une collective. Oui, c'est ça, catholique romain. Et pourtant, catholique, ça signifie quelque chose de plus. Alors c'est un terme. Alors Paul utilise un terme parce que le chrétien doit être séparé du monde, qui coïncide avec l'idée de que le pharisien, c'était le pur, c'était le séparé aussi des autres.
Mais je comprends bien.
Coïncidence, mais je ne crois pas que c'était un empreinte, c'est-à-dire, je ne crois pas du tout.
Hein. Je crois qu'il y a un rapprochement de vocabulaire.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Ouais. Mais pas dans l'idée, oui, tout à fait. Mmh.
Sur le mot catholique, d'ailleurs, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas du tout pour la traduction par universel. Je crois qu'il ne faut pas traduire. Il y a des mots qu'il ne faut pas traduire. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs mots comme ça qu'il ne faut pas traduire. Par exemple, le mot grec parakletos. Parakletos. Qu'est-ce que c'est ? Au fond, moi, je pense qu'il faut transcrire simplement et mettre le paraclet. Pourquoi ? Parce que ça vient de deux mots grecs qui viennent à signifier celui qui est appelé à côté. Celui qui est appelé à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui est appelé à côté ? Ça peut être l'avocat, le défenseur, l'avocat. Ça peut être le conseiller. Ça peut être l'ami. Ça peut être le garde du corps. Ça peut être le guide. Ça peut être des tas de choses. Alors, si vous traduisez, comme on le fait quelquefois, parakletos, par avocat, simplement. Eh bien, vous allez diminuer le sens. Tandis qu'il vaut mieux garder le paraclet, comme l'ont fait d'ailleurs certaines anciennes, je ne sais pas si en espagnol on avait pareil, mais dans certaines anciennes versions françaises, on met le paraclet, avec un P majuscule, le paraclet. Je vous enverrai, dit Jésus, un autre paraclet. Hein? Il est lui-même paraclet, et il envoie un autre paraclet, qui est le Saint-Esprit. Mais je crois qu'il faut, garder là, le mot. Alors, pour le mot catholique, c'est un peu la même chose. Le mot catholique vient de deux mots grecs, le mot kat qui signifie selon, hein, selon, par exemple, on dit l'évangile selon saint Matthieu, c'est kata, alors kat, kata, selon. Et puis alors, l'autre sens du mot, c'est, ça vient de l'idée de holos, ou holon, ou olé, qui veut dire le tout, le tout. Si bien que, ce que veut dire le mot catholique, c'est qu'il faut être fidèle au tout, fidèle à l'ensemble. Alors je prends un exemple pour vous montrer pourquoi je rejette le mot universel. Au moment où l'arianisme, l'hérésie d'Arius, s'est développée dans tout l'Empire romain, pratiquement tout le monde est devenu arien, au point que saint Athanase, qui a été le grand champion de la vérité biblique contre les Ariens, il s'agissait de la divinité de Jésus-Christ, et du même coup il s'agissait de la Trinité, Athanase avait été surnommé Solus contra Mundo, seul contre tous. Tous les évêques étaient Ariens, l'ensemble de l'Empire romain était Arien, les chrétiens étaient Ariens. Bon. Donc la religion universelle à ce moment-là a été l'arianisme. Et c'est Athanase seul qui était catholique, selon le tout de l'enseignement biblique, parce qu'il défendait ce que dit la Bible dans son ensemble, alors que, à savoir, que Jésus-Christ est vraiment Dieu, en même temps qu'il est vraiment homme, et que Dieu est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tandis que les Ariens finissaient par aller dans le sens du monothéisme, je ne dirais pas vétérotestamentaire, mais juif, du judaïsme, ou même dans le sens que prendra plus tard l'islam. Hein? Donc, le mot qui est catholique à ce moment-là, ce n'est pas l'Église universelle qui est arienne, mais c'est Athanase. Pourquoi ? Parce qu'il est selon l'enseignement de la totalité de l'Écriture. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que je dis, catholique, c'est à mon sens, c'est un très très bon mot. Mais il ne faut pas le traduire par universel. Il faut maintenir le mot catholique en l'expliquant, en disant ça veut dire selon le tout, selon l'ensemble, si vous voulez, ce qu'on pourrait traduire par tota scriptura, toute l'écriture.
Pour un catholique romain, est-ce que ça signifie la même chose, catholique, ou bien est-ce que
non,
ça inclut la tradition?
Non, mais vous avez... Les théologiens qui sont proches du point de vue que j'expose, en dehors bien sûr des théologiens réformés, ce sont les orthodoxes d'Orient. Les orthodoxes tiennent beaucoup au mot catholique. Ils disent même, au fond, pour être vraiment orthodoxe, selon la vraie doctrine, hein, pour être vraiment orthodoxe, il faut être catholique, c'est-à-dire avoir une théologie selon le tout de la révélation. Alors, les théologiens orthodoxes, vraiment, maintiennent le mot catholique, mais ils ne disent pas universel. Ils ne traduisent pas par universel.
Est-ce qu'il y a un rapport avec le grand catholicos qu'il y a en général dans...
Ah oui, alors là, qu'est-ce que c'est que le grand catholicos? C'est celui qui a comme mission de diriger l'Église selon la vérité, selon toute la vérité, selon l'ensemble de la révélation.
C'est une sorte de...
Oui. Si bien que il peut même y avoir un catholicos, à la limite, qui n'a d'autorité que sur un petit nombre. Vous voyez, mieux vaut être catholique dans le sens de la vérité, même si on est à un moment donné un petit nombre, comme Athanase était solus contra boudum, hein, plutôt que qu'universel. Parce qu'au fond, là aussi on dit ce qui a été enseigné partout. Vous savez que c'était un des grands points de la théologie, on vous disait ce qui a été enseigné partout. Alors du moment que ça a été enseigné partout, que l'ensemble fait ça, alors c'est vrai. Non. Parce que l'ensemble peut être hérétique, comme au temps des Ariens. Alors vous avez donc le vrai sens du mot catholique, ça veut dire selon le tout, selon l'ensemble de la révélation. Tota scriptura. Et Athanase est le seul catholique au milieu d'une église universelle qui est arienne. Et l'Église universelle n'est pas catholique à ce moment-là. L'Église universelle n'est pas catholique. Et Athanase, même tout seul, c'est lui qui est catholique. Vous voyez le vrai sens du mot catholique. C'est pour ça que je rejette tout à fait la traduction universelle. Je crois à la Sainte Église catholique, je crois à l'Église qui est vraiment selon le tout de la révélation, mais je me refuse à dire je crois à la Sainte Église universelle. Alors évidemment, il ne faut pas pousser les choses. Si dans une église locale, on a l'habitude de dire le credo en disant la Sainte Église universelle, je m'inclinerai en faisant universel un synonyme de catholique, non pas universel par rapport à l'étendue des gens, mais universel par rapport à l'étendue de la révélation. Bon. Mais quand même, je préfère qu'on ne traduise pas catholique par universel, c'est pas la même chose.
Alors j'ai utilisé un mauvais exemple.
Comment?
J'ai utilisé un mauvais exemple.
Avec
le catholique. Mais j'ai appris beaucoup de choses.
Oui. Je dirais pas, non, vous n'avez pas pris un mauvais exemple, parce que c'est vrai que l'Église romaine veut se définir toujours comme la grande Église. Or, c'est pas la grande Église qui importe. Parce que, alors, à la limite, si c'était la grande Église, on devrait se poser la question, quelle est la plus grande Église sur la Terre? Et on devrait se rattacher à la plus grande. Or, le mot catholique ne veut pas dire du tout qu'il faut se rattacher à la plus grande Église. Il faut se rattacher à l'Église qui est le plus fidèle à l'ensemble de la révélation. Voilà, c'est le sens du mot catholique. Alors là, je crois à la Sainte Église catholique. Et alors, rappelez-vous, ce qu'on disait de Saint Athanase en son temps, solus contra mundo, seul contre l'universel. Il était tout seul au milieu de tous. Et il en a bavé. Pensez que évêque d'Alexandrie, il a été banni 5 fois, non seulement de son titre d'évêque, mais de la ville d'Alexandrie. Et il a dû vivre comme un proscrit pendant presque toute sa vie. Il a été, non pas un martyr au sens où on l'aurait mis à mort, mais il était un martyr parce que c'est un homme qui a vécu sous la condamnation et la proscription. Parce que je vous le dis, c'est une époque où l'ensemble des chrétiens, évêques en tête, étaient ariens. L'ensemble des chrétiens étaient ariens. Allez, on peut y aller encore. Oui, allez-y. Attendez, parce que quand même, je vous situe les uns ou les autres. Vous vous appelez
Jean-Mathieu.
Ah, c'est Jean-Mathieu van Leuven. Yeah. C'est un nom. C'est un nom des Pays-Bas, ça, non?
Oui, je suis tout à fait hollandais.
Ah, vous êtes
tout
à fait
hollandais. Mais j'ai Oui, mon nom en français parce que ça prononce aisément.
Jean Mathieu, et ça se dit comment en hollandais?
Jean Mathijs.
Ah oui, bah c'est quand même pas tellement loin. Enfin, c'est mieux de dire Jean Mathieu, c'est plus facile. Pour un Français. Pour un Français.
Oui, oui, je connais le problème. J'ai beaucoup rencontré les gens. Ma question aborde un peu le célèbre testimone Flavien.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que vous dites Flavien, il n'a rien dit du Jésus-Christ, mais il y a un fameux passage qu'on discute.
C'est ça. Oui, alors ce que je crois, c'est que il y a eu des copistes, en particulier dans les versions latines de l'œuvre de Flavius Joseph, de Flavien, en effet, on peut très bien l'appeler Flavien, qui, étant chrétiens, n'ont pas pu s'empêcher d'insérer. Vous savez, on n'avait pas le sens de la propriété littéraire comme on l'a aujourd'hui. Dans l'Antiquité, il y avait un danger, sauf lorsqu'il s'agit, c'est de la Sainte Écriture. Vous savez, dans la Sainte Écriture, c'était incroyable. Les copistes de la Torah et d'autres, ils comptaient toutes les lettres et ils indiquaient le nombre de lettres dans la marge. Et même, comme c'était une écriture carrée, si je puis dire, qu'on peut disposer en colonne, on comptait les mots dans ce sens, les lettres dans ce sens, on comptait les lettres aussi dans ce sens. Et on vérifiait ensuite qu'il y avait bien le nombre à chaque fois. Donc on faisait très attention. Les copistes des écrits saints, c'était des gens auxquels en général, je dis en général, on peut faire tout à fait confiance. Tandis que les copistes des autres œuvres, des œuvres non sacrées, ils n'hésitaient pas, ils pensaient, oh, si on le dit comme ça, les gens ne comprendront pas. Alors ils arrangeaient un petit peu. Ah mais là quand même, pourquoi est-ce que Joseph ne mentionne pas Christ? Ou pourquoi Joseph ne mentionne-t-il pas les chrétiens? Alors, il y a eu, dans les versions latines de l'œuvre de Flavien, il y a eu des intégrations chrétiennes. C'est ce que je crois qui est arrivé. Parce que, il faut voir que ces insertions apparaissent, comme on dit en français, comme des cheveux sur la soupe. Vous voyez le sens de l'expression, comme des cheveux sur la soupe. Ça veut dire ça tombe mal. Ça ne colle pas avec le contexte. On voit presque de trop près. Mais vous avez quelques historiens, il y en a quelques-uns, qui quand même disent oui, mais il y a quand même peut-être un ou deux endroits, ou trois endroits, où il y a une allusion. Il n'y a peut-être pas la mention nette des chrétiens, mais il y a une allusion.
Mais il y a un passage célèbre qu'on discute.
Oui.
Et les arguments de rejeter comme énototrique sont seulement des arguments psychologiques qu'on utilise dans les épîtres de Paul. Ça veut dire Flavien ne peut pas écrire parce qu'il ne peut pas mentionner tellement parce qu'il pense autrement.
Oui, vous avez raison. Je ne prends pas parti là-dedans. Seulement, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Joseph, c'est pas tellement ce qu'il pourrait dire du Christ et des chrétiens, parce que de toute façon, c'est une mention qui n'est qu'en passant et qui ne nous apprend rien, ni sur Christ ni sur les chrétiens. Je préfère, si vous voulez, dire, même si Joseph, même si Flavien ne parle pas du Christ et des chrétiens, hein, tout ce qu'il nous dit sur les juifs de l'époque, ça c'est intéressant parce qu'il nous donne des détails sur leur vie quotidienne, sur le temple, sur les sacrifices et tout. Vous voyez, je préfère marcher sur le sûr. Mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas raison, parce que, en effet, je pense qu'il y a un ou deux passages de Flavien dont on peut penser qu'il y a une vraie allusion à la foi chrétienne. Vous voyez, je ne suis pas, autrement dit, je ne suis pas du tout catégorique.
J'ai une autre question, on peut paraître. Qu'est-ce que vous pensez du problème synoptique?
du problème synoptique.
Ouais.
Vous savez que le problème synoptique est depuis 150 ans un prodigieux casse-tête. On a fait toutes les hypothèses. Alors on a les affaires de la fameuse source Q, les relations entre Matthieu, Marc et Luc. Alors qu'est-ce qui est le plus ancien? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce qu'il y a une source commune? Est-ce que bon, avec tout ça. Alors là, vraiment, je vous recommande. Est-ce que je l'ai indiqué dans mon dans les livres que j'ai indiqué, le livre de Venham sur la datation des synoptiques? Non. Alors écoutez, je l'ajouterai à la bibliothèque. Je n'ai pas apporté là la référence. Le titre en anglais, c'est Redating the Synoptic Gospels, n'est-ce pas? Il a repris au fond le titre de Robinson, mais lui ne s'attaque qu'à la question justement des évangiles synoptiques. Et moi je trouve que c'est très très intéressant. Alors pour Venham, c'est très curieux, c'est l'évangile de Matthieu. Qui, d'après lui, aurait été écrit vers 40, qui serait le premier des évangiles. Et il montre que, très probablement, d'après lui, enfin, il en fait la démonstration, c'est un livre assez important, il montre qu'il y a eu, sans doute, des correspondances, des liaisons écrites entre les évangélistes. Parce que, il dit, il y a... Il ne faut pas croire que les évangélistes ignoraient forcément que d'autres étaient en train. Alors, Matthieu peut très bien savoir que Marc ou Luc étaient en train aussi de préparer un évangile. Et alors, sur certains points, ils ont très bien pu correspondre. Matthieu demandant à Marc ou Marc demandant à Matthieu, dis donc, est-ce que tu te souviens, je me souviens plus bien moi de ce qu'il faut dire à tel sujet et tout, ou quelle est la parole exacte. Vous voyez, si bien que certaines ressemblances pourraient provenir non pas qu'ils aient puisé dans une source commune, mais qu'ils se soient interpellés les uns les autres, tout en restant chacun avec un point de vue, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes destinataires, et ils n'avaient pas non plus la même formation. Par exemple, vous savez, Luc, des quatre évangélistes, est celui qui, et c'est le seul qui était d'origine grecque, qui n'avait rien à voir avec le judaïsme, ce qui est donc converti des nations. Ils n'ont pas un converti du judaïsme. Il a été disciple de Paul. De même, on s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que Luc, qui justement n'était pas juif, nous donne une introduction comme il a fait? Or, Venham propose, lui, que Luc s'est adressé directement à la Vierge Marie et est allé la voir. Parce qu'il connaissait bien l'Asie mineure, il est probable, dit-on, que la Vierge Marie s'est trouvée à Éphèse, où elle a vécu d'ailleurs avec l'apôtre Jean, qui était son fils adoptif, et comme elle était la mère adoptive de Jean. Et Venham pense même qu'il y avait une certaine parenté entre Jean et qui était plus ou moins cousin. Et alors c'était aussi pour ça que Jésus avait confié sa mère à Jean. Alors Jean était à Éphèse, et Luc, qui circulait beaucoup, serait allé, d'après Venham, à Éphèse et aurait recueilli. Et d'ailleurs, le style de Luc dans les premiers chapitres de son évangile sont bourrés d'hébraïsme, parce qu'au fond, il a voulu quasiment répéter ce que la Vierge Marie lui avait dit presque du mot à mot, si bien que ça expliquerait la différence de style entre le prologue, si je puis dire, de l'évangile de Luc, et puis le reste de l'évangile, même au point de vue du vocabulaire, même au point de vue des tournures de phrases et tout ça. Voilà. Alors, le livre de Venham, si vous le lisez, vous verrez, c'est très intéressant, parce que c'est quand même un bonhomme, il était pasteur et en même temps théologien, c'est un homme qui, si j'ai bien compris, a travaillé pendant plus de 30 ans simplement sur la question des évangiles synoptiques. Je pense qu'il a lu presque tout ce qu'on a publié depuis 150 ans sur la question des synoptiques. Et alors c'est très très intéressant, parce qu'il fait quand même des propositions qu'on n'avait pas faites jusqu'à présent.